50 ans après les événements, j'ai voulu retourner sur les traces de cette crise avec l'intuition que même si j'étais né en 1972, elle avait déterminé mon éducation citoyenne et politique.
Je me souviens.
Je me souviens des mesures de guerre.
Oui, je me souviens.
C'était dans les guides cette année.
Mon père faisait de la politique. Il était libéral.
Je me souviens que mon père a été arrêté durant la crise pour avoir stationné devant la maison d'un supposé falkiste.
Alors, c'est un extrait de cette série en 8 épisodes. En fait, c'est pas vrai. C'est 9 épisodes, sauf que le 9e sera enregistré, d'une certaine façon, en direct, le 24 octobre, au Diamant. Et vous aurez deviné, évidemment, que le titre « Pour en finir avec octobre », c'est pour en finir avec la crise d'octobre 70.
Crise d'octobre. Et on a beaucoup parlé de la crise d'octobre, évidemment, parce que c'est le 50e anniversaire. On a parlé de cette crise-là depuis quelques semaines. Et là, pour en finir, je trouvais que, vu qu'on en a parlé, puis on va arrêter d'en parler encore pendant 1 an, puis 2 ans, puis... Écoute, il y aura un autre anniversaire, mais je voulais parler à Sébastien Ricard, parce que Sébastien Ricard, vous êtes... Bonjour, Sébastien.
Bonjour à vous deux.
Bonjour. Sébastien, vous êtes évidemment celui qui avait, qu'on entend dans ce balado. Et j'aimerais ça savoir, vous êtes né en 72, vous lancez ce balado, et pourtant, en 70, vous n'y étiez pas. À quel moment cet événement-là vous a interpellé?
Je dirais que ça a commencé en 2009. La même bande qui a travaillé sur le balado dont on parle a organisé à Québec le Moulin à Parole, qui était un événement de lecture de texte qui durait 24 heures. Mm-hmm. On se proposait de faire une revue complète de l'histoire du Québec à travers les textes. Et dans cette revue-là, on avait inséré le manifeste du FLQ qui a failli faire capoter l'événement. La seule lecture de ce texte-là nous a valu les foudres du Parti libéral. Sam Ahmad avait déclaré aux journalistes qu'il ne voulait pas s'associer à des gens qui faisaient la promotion de l'assassinat du terroriste. J'ai réalisé à quel point cette crise-là, à ce moment-là, était traumatique, puis d'une certaine manière tabou, parce que c'était carrément la seule idée de lire un texte qui mettait en danger un événement sur lequel on avait travaillé pendant longtemps. C'est là que j'ai commencé à m'intéresser vraiment à cet événement-là. En 2017, avec d'autres amis, j'ai fait des recherches pour remettre la main sur les textes des gens qui avaient été incarcérés dans la foulée des rafles qui ont suivi la promulgation de la loi des mesures de guerre. Plusieurs personnes, on a entendu parler Jocelyne Robert récemment, mais ont écrit comme elle le récit de leur incarcération. C'était très intéressant de lire et de faire entendre ça parce que c'est une parole qui est méconnue. Mais je trouve que beaucoup d'éléments comme ceux-là sont méconnus de cette crise-là. Et dans définitive, je trouvais que c'est un récit qui, moi, m'a été trop peu... raconté en profondeur, je l'ai vérifié autour de moi, j'ai des enfants, c'est un épisode qui est à peu près pas explicité à l'école lorsqu'il est question d'histoire du Québec, c'est une note en bas de page dans plusieurs manuels, c'est un épisode qui est littéralement laissé de côté et ça m'intéressait beaucoup, puis je me suis rendu compte finalement que ce qui m'intéressait surtout c'était les journées qui ont précédé la promulgation de la loi des mesures de guerre qui elle est suivie de la mort de Pierre Laporte, ces journées-là au nombre de 11 débute le 5 octobre avec l'enlèvement de Crosse puis qui s'achève donc avec la promulgation. Je trouve que c'est des journées qui sont puissantes, qui ont une part de lumière qui est complètement oubliée et occultée par les événements traumatiques qui vont suivre. J'ai dû réfléchir à comment je pouvais remettre au jour la lumière de ces journées-là que je trouve vraiment déterminantes. Puis quels sont les mécanismes qui ont fait qu'on a pu laisser disparaître ces 11 journées-là de notre histoire collective.
Mais en même temps, vous trouvez pas ça frustrant, Sébastien Ricard, de voir qu'en ce moment, on est inondé de documents et d'entrevues souvent contradictoires. Un exemple. Jacques Cossette-Trudel, de la Cellule Libération, dit que un moment important de la crise, c'est quand Paul Rose s'est rendu à un endroit neutre chez une collaboratrice du Front de Libération, qu'il était l'un devant l'autre et que Paul Rose a déposé un pistolet sur la table en disant « il faut liquider nos otages ». Et puis, vous avez Suzanne Lanteau qui arrive quelques jours après, qui a dit « Ah non, moi, j'aurais été témoin de ça, j'aurais entendu tout ça, et j'aurais vu ça. Ça s'est pas passé comme ça. » Ou en fait, c'est pas Suzanne Lanteau, c'est...
Non, c'est Louise Véraud.
C'est Louise Véraud, pardon. Ouais. Chez qui a eu lieu cette supposée rencontre? Et Louise Véraud dit, « Mais non, j'ai pas vu de pistolet, là. » C'est extrêmement frustrant, parce que 50 ans plus tard, les intervenants même ne s'entendent pas sur des moments qui, on peut dire, auraient été des moments précis et extrêmement sensibles.
Mais Je pense pas que de savoir si oui ou non Paul Rose aurait effectivement déposé un revolver et dit prononcé cette phrase-là fait capoter tout l'événement, ou en tout cas rend l'événement moins lumineux à mes yeux. Je veux dire, la question de la décision arrêtée d'exécuter Pierre Laporte ou non, c'est une question qui est d'une autre nature, à mon avis. Par exemple, je trouve que ce qui me frappe de la part de Cossette Trudel, puis de surtout lui, en fait, c'est ce que j'ai observé même chez les felkistes eux-mêmes. En fait, à part ceux de la cellule chimie qui ont observé un silence assez remarquable pendant toutes les années qui s'est passé, je trouve que chez les autres, il y a même chez eux, il y a une sorte de... Ils se racontent une autre histoire. On dirait que ça bouge, ça change. Donc, je ne sais pas si c'est vraiment des témoins fiables. Je ne le dis pas pour décrédibiliser ce que Cossette Trudel dit, mais le titre de notre balado, pour en finir avec Octobre, c'est référence au roman, mon livre de Francis Simard, qui lui-même relate la crise d'un livre qu'il a écrit en prison. Puis, le point d'interrogation qu'on a ajouté à son titre, pour le paraphraser, est une manière de dire aussi ça, c'est-à-dire Francis Simard ne peut pas, même s'il est un acteur important, prétendre finir avec cette crise-là. Puis, ultimement, moi, je pense qu'il n'est pas intéressant d'en finir avec cette crise-là, parce que elle n'a pas fini, au contraire, de nous intéresser puis de nous apprendre toutes sortes de choses
sur la collectivité. Et surtout qu'on en a peu entendu parler, comme vous dites, à certains, on parle des livres d'histoire, par exemple, on parle de l'école, c'est vraiment escamoté, là, tu sais, cette partie de l'histoire,
ouais,
comme si c'était un tabou, quand la police a investi, évidemment, a été investie de pouvoirs illimités à un moment donné, on parle pas tant que ça de ça.
Non, en fait, c'est vrai, je trouve que c'est la barre de la porte qui a absorbé tout l'intérêt. Encore aujourd'hui, on le vérifie, c'est le 50e, puis il y a toutes sortes de gens qui sont revenus, puis je pense particulièrement au balado qu'André Laurendeau et Anne-Marie Dussault, c'est pas André Laurendeau, comment s'appelle-t-il, mais Laurendeau Dussault.
Marc
Laurendeau, Marc Laurendeau et Anne-Marie Dussault. Il y a beaucoup d'attention qui est portée à la barre de la porte, et je trouve que la loi des mesures de guerre a une importance dramatique au trouble. Ça s'appelle pour en finir avec Octobre. Merci.
Merci beaucoup, Sébastien.
Merci beaucoup.